Bonjour et bienvenue chez Rita. Rita, c'est le lieu de rencontre de tous les parents. Si vous êtes ici, c'est que vous-même allez devenir parent ou peut-être l'aviez déjà. Ici, on vous parle de maternité et de parentalité sans filtre. Et si vous êtes tombé chez nous par hasard, on espère que vous resterez quelques minutes de plus avec nous, le temps pour vous d'écouter notre épisode. Caroline Fontenoy présente le journal de RTL TV depuis une quinzaine d'années maintenant. Alors que dans la vie, elle se décrit comme une contrôle freak, le 12 avril 2019, la situation lui échappe. Elle se retrouve hospitalisée, meurtrie par des contractions qui n'en finissent pas, alors que son bébé n'a que 30 semaines. Trois jours plus tard, le 15 avril 2019, son bébé vient au monde. Sa petite Lou, née 2 mois trop tôt, fait partie des 7% des naissances prématurées en Belgique. Dans cet épisode, Caroline nous raconte comment elle a navigué la peur au ventre dans un monde parallèle dans lequel chaque jour est une lutte pour donner la meilleure vie possible à son enfant. Et comment 2 ans après Lou, elle est retombée enceinte de sa deuxième fille, craignant que le même scénario ne se produise. Mais après un marathon de patience, une détermination sans faille et un optimisme à toute épreuve, Caroline dépasse alors même son terme pour donner naissance à Zélia, laissant alors s'échapper toute l'anxiété qui la hantait. Personne n'y croyait, mais elle y croyait pour 10. Bonjour Caroline et merci de prendre le temps de venir partager ton histoire malgré ton emploi du temps un peu serré.
Merci de m'avoir invitée.
Tu es maman de 2 enfants, Lou et Zélia. Et récemment, tu as mis au monde un 3e bébé, si on peut dire, puisque tu as sorti ton bouquin qui s'appelle « La peur au ventre ». Tu vas nous expliquer ce que tu racontes dans ce livre, mais d'abord, pour ceux qui ne t'auraient pas reconnu, est-ce que tu peux te présenter ?
Bien voilà, je suis journaliste RTL depuis de longues années. J'ai beaucoup travaillé en radio, mais également en télévision, donc des reportages de terrain, des émissions variées. Et puis, j'ai terminé par la présentation du journal. Ça fait maintenant 17 ans que je présente le journal quand même. Donc voilà, je suis une femme passionnée d'infos, de médias, de rencontres. Je fais beaucoup de choses sur le côté aussi. J'anime des conférences. Je fais le clown pour le télévi. Donc, et puis, à mes temps perdus, j'ai écrit un bouquin. Voilà,
comme si tu n'avais pas assez de choses.
Oui, dans oui, la... c'est un petit peu ce que me reproche mon compagnon en disant mais enfin, tu n'arrêtes jamais. C'est un peu dans la famille, on est un peu des hyperactives. Donc voilà, je suis une touche à tout, une passionnée et qui a envie de faire plein de choses. Et le petit dernier né, voilà, c'est le bouquin, effectivement.
Alors, moi, j'aime bien faire un petit bond dans le temps et savoir un peu comment tu as rencontré le papa de tes enfants. Et depuis quand vous êtes ensemble ?
Je l'ai rencontré en 2017 par le plus grand des hasards. Ma vie, parfois, je me dis que c'est un petit peu un roman. On pourrait vraiment en faire plusieurs tomes ou faire une adaptation cinématographique parce qu'en fait, c'est vraiment comme dans les films. Je vivais une période très compliquée justement sur le domaine sentimental. Et comme je suis pas de nature à me laisser abattre, j'avais quand même décidé de fêter mon anniversaire, mais avec une soirée Girls Only. Donc j'ai invité 16 potes. Je me suis dit, bon, on va se faire une grande table, ça va être la fête, on rencontre mauvaise fortune, bon cœur. Donc je dis, mais alors, donc tu imagines dans un restaurant une table de 16 gonzesses complètement déchaînées. Et puis, on avait choisi ce restaurant-là parce qu'il y avait un concert en même temps. Donc je me dis, ça fait une petite animation, c'est sympa. Et lui, Jérôme, de son côté, venait écouter donc le concert, sauf qu'il s'était trompé d'artiste. Donc il est arrivé vraiment par hasard, il aurait très bien pu retourner aussi sec. Et lui m'a toujours raconté que quand il est arrivé, il a eu un flash quand il m'a vu, puisque bon, on était assez reconnaissables, on faisait assez de bruit ce soir-là, je t'avoue. Mais il n'y avait vraiment pas grand monde dans ce restaurant à part nous donc, et à part Jérôme. Donc lui, il avait un peu flashé directement, moi pas du tout, parce que j'étais dans mon trip. Bon, les mecs, ça suffit, on a marre, voilà. Et en allant recommander une xème coupe de champagne au bar, puisque c'était quand même mon anniversaire, il fallait fêter la chose. On a commencé à discuter avec Jérôme, à rigoler, parce qu'en fait, la chanteuse, croyant me faire plaisir, m'a souhaité au moins 5 fois joyeux anniversaire ce soir-là. Et on s'est regardé, je dis, mais comment prendre 5 ans en une soirée ? Et voilà comment tout a commencé. Et de fil en aiguille, on s'est rendu compte de surcroît qu'on était voisins. Donc on habitait la même rue, donc c'était quand même extraordinaire parce que le soir même, nous sommes retournés donc dans la même rue, on s'est dit « Ah, salut, salut !» Et le lendemain, c'était la fête des voisins. Donc, en bon voisin, maintenant, on s'est revus et depuis, en fait, on ne s'est plus jamais quittés. Quoi.
Tu avais quel âge à ce moment-là ?
Eh bien, je fêtais mes 38 ans quand même. Je vais donner de l'espoir à beaucoup de femmes. Si vous n'avez pas rencontré votre âme sœur, ne désespérez pas. Je suis la preuve vivante que tout vient à point à qui c'est attendre et qu'il ne faut pas désespérer. Puisque, bon, 38 ans, j'étais seule, pas d'enfant, j'enchaînais quand même les relations un peu compliquées, donc C'était pas la fête, mais voilà.
Toi, ton rapport à la maternité avant ça, est-ce que t'avais toujours voulu des enfants ?
Oui, parce que moi, j'ai une sœur, j'ai été élevée avec mon cousin, donc on a toujours été à trois à la maison. C'était pas une envie qui était prégnante dans mes jeunes années, j'ai envie de dire, mais je savais que je voulais des enfants un jour, ça c'était sûr. Mais ça n'a pas été une priorité, je veux dire, dans ma vie tout de suite. J'ai beaucoup voyagé, j'ai beaucoup travaillé. C'est un travail qui demandait beaucoup d'investissement. Et puis, quand j'ai commencé à penser à avoir des enfants, malheureusement, j'ai enchaîné des mauvaises rencontres, entre guillemets, ou en tout cas des personnes qui ne me convenaient pas du tout. Donc voilà, et mon mari s'est pointé seulement quand j'ai eu 38 ans.
Vous abordez assez vite la question du bébé ?
Oui, parce que moi, j'étais très franche avec lui, que je ne voyais pas ma vie sans enfant. Et lui, pareil, donc ça s'est fait vraiment naturellement. C'est-à-dire qu'on a abordé le sujet assez rapidement, mais tout est venu vraiment naturellement, sans pression, sans timing. Je dois dire que c'était vraiment... Ça fait un peu cliché, mais c'est quelqu'un, c'est un peu mon âme sœur, hein, Jérôme, vraiment dans une complicité extraordinaire. Donc tout s'est fait naturellement, et je crois que c'est quand on rencontre la bonne personne, c'est comme ça que ça doit se faire. Et donc voilà, je pense que ça faisait un an qu'on était ensemble, on s'est regardé, et pour nous c'était ok de mettre en route un bébé. Bon, c'est vrai que j'avais l'âge que j'avais, donc du coup il fallait plus non plus trop traîner, et voilà. Mais on était assez sûrs de nous malgré que ça ne faisait qu'un an qu'on était ensemble.
Tu tombes enceinte assez rapidement.
Oui.
Alors, et naturellement ?
Oui. Alors là, j'ai eu cette chance-là. Alors, je suis une grosse optimiste. Hein. Alors, je ne sais pas si c'est mon optimisme qui m'a porté, parce que c'est vrai qu'à 38 ans, outre le fait d'être célibataire, on peut aussi se poser raisonnablement la question de savoir si ça va fonctionner. Il y a quand même l'horloge biologique qui est là. On nous met souvent en garde contre ça. Mais j'avais toujours un sentiment, une conviction intérieure que ça ne poserait pas de problème. Et je suis tombée enceinte dans les 6 mois, donc ce qui est quand même relativement rapide en venant de 20 ans de pilule, quoi. Donc.
Oui, donc ton corps, entre guillemets, n'avait pas encore fait le travail de tout rejeter non plus, quoi. Est-ce qu'on t'avait prévenu d'un éventuel risque de grossesse ? Est-ce que tu avais une grossesse à risque, en fait ?
Non. Non, parce que, alors c'est vrai que si on est catalogué dans un terme qui me rebute, parce que je ne suis pas très heureux, hein, c'est les grossesses gériatriques.
Oui, j'allais dire. Et encore tardive, c'est plus beau que gériatrique.
Oui, hein. Là, je trouve qu'on aurait franchement pu trouver un autre terme. Il n'y avait pas de risque dans la mesure où si vous êtes relativement en bonne santé, ce qui était mon cas, il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Peut-être qu'on est un peu plus suivi qu'une autre maman, parce qu'il y a effectivement certains risques. Mais à part ça... Franchement, il n'y a pas de souci.
Et donc, ta grossesse, dans l'ensemble, se déroule très bien, jusque quand ?
Alors, si les grossesses avaient duré 6 mois, j'aurais été la reine du monde et j'aurais pu faire 10 bébés, parce que jusqu'à 6 mois, j'ai pas une seule nausée. Ça, okay. J'ai jamais connu une nausée matinale. Je suis dans une forme olympique, portée par la bonne nouvelle, par ce bonheur de porter la vie, parce que moi, les grossesses, ça a vraiment été une parenthèse enchantée. J'adore mes formes, j'ai pas pris beaucoup de kilos, donc je trouve que c'est assez harmonieux. Je peux tout manger parce que j'ai fait la toxoplasmose grâce à mon chat préalablement, donc c'est bonheur. Je continue à travailler. Tout se passe vraiment excessivement bien, jusque patatras, passé les 6 mois, enfin Lou c'était 6 mois et 3 semaines, c'était presque on arrivait aux 7 mois, où là effectivement, à cause d'une infection que j'ai contractée, je vais avoir des contractions qu'on ne pourra plus jamais arrêter. Et en fait, j'ai ce qu'on appelle un utérus contractile, qui fait qu'à partir d'un certain poids du bébé, ça provoque des contractions. Alors, dans mon cas, elle n'avait heureusement aucun effet sur le col. Donc, c'est juste des contractions pas très agréables qui servent à rien, mais c'est angoissant parce qu'on se demande chaque fois si le travail a commencé.
À quel moment ta grossesse bascule ? Est-ce que tu peux nous replonger dans cette journée ?
Oui, alors justement, j'avais, c'est vrai, beaucoup travaillé préalablement parce que j'ai mon homologue au 19h qui était parti, c'était pas prévu, donc j'ai dû le remplacer au pied levé. Donc là, c'est quand même des gros horaires. Je viens de 7 semaines assez denses. Je le sais parce que finalement, j'ai replongé dans mon agenda un petit peu rétroacte pour voir ce qui s'était passé. Je sens que je commence un peu à fatiguer. Je sens que le soir, j'ai mon ventre qui se durcit un peu. En fait, je commence à avoir des contractions que je n'identifie pas comme telles parce que c'est mon premier enfant, que je ne sais pas ce que c'est qu'une contraction, que je ne suis pas une douillette de nature. Et 10 jours avant d'accoucher, je me rends chez mon gynécologue et je lui parle de tout ça. Je lui dis, vous savez, docteur, le soir, c'est un peu dur. Il me regarde, il me dit, mais vous travaillez toujours ? Je lui dis, oui. Oui, ben, c'est normal alors. Hein. Ce mot normal, je ne peux plus l'entendre. Il me dit, ben, prenez un bain et détendez-vous. Hein. Voilà comment je suis repartie. Et quand on fait le rétroacte, je me dis, mais quel manque de prévoyance. 40 ans, premier enfant, je décris les contractions, mais je n'en sais rien. Et le médecin me dit, prenez un bain, détendez-vous. Je trouve que, a posteriori, je trouve ça vraiment très léger.
Il ne t'a pas proposé de lever le pied et de réduire ton horaire et ton emploi du temps.
Et franchement, c'est ce qu'on aurait dû faire. Peut-être que ça n'aurait pas arrêté l'infection, mais peut-être que l'histoire aurait été différente. Et ça, c'est quand même quelque chose qui me hante parfois. Je me dis, qu'est-ce qui se serait passé si je m'étais arrêtée à ce moment-là? Ça, j'aurais jamais la réponse.
Et donc, oui, tu disais, tu avais eu un rythme très intense pendant cette semaine, c'est ça? Ce jour-là, tu venais de finir l'antenne?
C'est marrant parce que le corps, on dirait qu'il tient jusqu'à une espèce d'objectif. Et ce soir-là, je termine le journal et j'ai une semaine de congé. Donc je me dis, oh génial, super. Donc peut-être que dans mon cerveau, je me relâche en me disant, je peux enfin respirer un petit peu. Et pour bien commencer les vacances, Jérôme m'emmène gentiment au restaurant. Mais là, je commence déjà à pas me sentir très très bien, quoi. Je suis fatiguée, j'ai mal au ventre, mon ventre se tend, je sens que ça va pas. Donc on écourte le restaurant, j'écoute, on rentre parce que là vraiment, je me sens pas bien du tout. Et ça va aller vraiment de pire en pire. Je commence à avoir de plus en plus de contractions. Je sens que ça chipote. Donc, sur les bons conseils de mon médecin, je prends un bain. Rien ne se passe, évidemment. Ça va de moins en moins bien. Et vers 2h du matin, là, je dis à Jérôme, on va aux urgences. Parce que je crois qu'on a toujours une petite voix intérieure. Et ça, c'est vraiment important de s'écouter. Qui nous fait comprendre qu'il y a quelque chose qui tourne pas rond. Il faut toujours, toujours s'écouter. Donc, nous voilà partis. Mais j'en ris, aujourd'hui, je pars avec mon manteau, mon sac à main, persuadée que je reviens le soir même, ou voire le matin, quoi.
Oui, tu penses que c'est une alerte, quoi.
Ah oui, moi, je pense que voilà, vas, que c'est une petite alerte, qu'il faut quand même aller vérifier ce qui se passe. C'est mon premier enfant, donc moi, je connais pas très bien non plus les symptômes de quand il faut vraiment s'inquiéter ou pas. Mais ces contractions se rapprochent, je suis pas bien, donc on va vérifier. Et effectivement, donc là, je suis prise en charge aux urgences par le sage-femme Franck, qui m'examine. Bon, on comprend que la situation n'est pas encore catastrophique, mais elle n'est pas optimale. Et donc là, je reste en observation. On appelle mon gynécologue et on va tout faire à ce moment-là pour essayer d'arrêter les contractions. Mais on m'administre assez rapidement. Au début, je ne savais pas trop ce que c'était, mais maintenant, j'ai compris, du surfactant, qui est un produit assez génial qui n'existait pas il y a encore quelques années pour gagner une semaine de maturité des poumons. Mais ce produit, il faut 48 heures pour que ça agisse. Donc moi, dans ma tête, en tout cas, il est hors de question qu'il se passe quoi que ce soit avant 48 heures parce qu'il faut que ce produit ait le temps d'agir sur mon bébé. Et donc, on essaye vraiment par voie médicamenteuse d'arrêter les contractions. On prend les mesures aussi, et c'est là que tu comprends qu'en fait, tout se met progressivement en place. On prend les mesures du bébé, on fait venir, on fait une échographie, on essaie d'estimer le poids du bébé, etc. À un moment donné, je vois que mon gynécologue sort dans le couloir, discuter avec celle qui vient de faire la mesure, etc. Donc, tu comprends doucement mais sûrement que la situation t'échappe et que ça prend une direction qui ne va pas te plaire. Mais à ce moment-là, j'espère vraiment, j'ai encore l'espoir fou que ça va aller parce que j'ai une petite accalmie. Je dis même à Jérôme, écoute, rendormir à la maison, ça ne sert à rien que tu restes à l'hôpital parce qu'on est tellement mal foutu à l'hôpital, donc j'y rentre. Et puis, à 7h du matin, là, j'agrippe. Donc, on est le troisième jour. Ça fait quand même 3 jours que j'ai des contractions. Donc, j'arrive un petit peu à bout de course physiquement. Et là, j'agrippe, je vois encore agripper Franck. Je dis, Franck, là, je crois qu'il est temps d'appeler mon gynécologue. Et lui me dit, je crois qu'il est temps d'appeler votre mari.
Est-ce que pendant les 3 jours, donc, t'avais conscience qu'en fait, t'allais potentiellement accoucher là, imminemment sous peu, ou alors t'avais encore dans l'espoir à ce moment-là de tenir plusieurs semaines, plusieurs jours, je sais pas.
Ah oui, moi je suis dans l'espoir total, parce qu'il y a eu des petites accalmies, je me dis, ah ça va, mon corps se calme, ça va aller. Mais par contre, le premier jour, on me somme assez brutalement, ça je le raconte dans le livre, de ne plus bouger un orteil, je peux même plus me lever pour aller aux toilettes toute seule. Et là, mon gynécologue me dit, écoutez, Madame Fontenoy, ici, il est question de handicap, de mortalité, donc maintenant vous ne bougez plus. Mais je lui dis, mais de quoi il me parle, quoi? Là, c'est mon premier contact avec la prématurité. Je réalise pas du tout de ce qui m'arrive, en fait. Donc, on m'explique pas l'importance de gagner des jours, des semaines. Et j'ai trouvé ça vraiment extrêmement violent. À partir de ce moment-là, on essaye le tout pour le tout. Il me dit, écoutez, on va vous faire une péridurale. Peut-être que ça va stopper les contractions. On me fait cette péridurale. Ça va beaucoup mieux, moi, parce que forcément, je ne ressens plus les contractions. Mais je vois sur le monitoring qu'elles continuent. Donc, ça n'a aucun effet sur les contractions. Et donc la sentence tombe, il me dit, bah, écoutez Madame Fontenoy, maintenant on va la chercher parce que le bébé commence à être en souffrance d'avoir des contractions depuis 3 jours comme ça. Bon là je m'effondre complètement, je pleure, c'est vraiment le ciel qui me tombe sur la tête, quoi. Entre le moment où il me dit on va la chercher et le moment où on m'ouvre le ventre, je pense qu'il se passe une demi-heure. Hein. Parce qu'en plus j'ai déjà la péridurale et tout, donc c'est extrêmement rapide.
Est-ce que tu étais consciente pendant cette césarienne.
Oui, j'étais tout à fait consciente de tout. Je voulais vraiment voir Lou, je l'ai vue pas beaucoup, parce qu'en fait, on l'a sortie, on a fait « Ah, voilà le roi lion, merci, au revoir », puis on l'a emmenée, parce qu'en fait, elle ne respirait pas, hein. elle était toute bleue, elle respirait pas, donc on l'a vite emmenée pour la réanimer. Je l'ai entendue pleurer de loin, et quand je l'ai entendue pleurer, j'ai eu le sentiment, je me dis « Ah, ça va, cet enfant respire, ça va aller, elle va bien ». Et là, j'ai agrippé mon mari, je dis « Maintenant, tu la lâches plus d'une semelle, tu la suis ». Quand je l'ai vue passer et que j'ai vu qu'elle allait bien, là, mon corps a vraiment... il a dit « Ok, c'est bon, j'ai fait le taf, au revoir ». Et là, j'ai un peu sombré parce que j'étais tellement shootée que vraiment, j'ai eu un blackout. Je me suis réveillée plusieurs fois en salle de réveil, mais j'avais vraiment un réveil compliqué. Il y a une infirmière qui est venue près de moi et qui m'a dit « Allez, Madame Fortuna, maintenant, on bouge les jambes hein. ». J'avais même pas bougé un orteil. Donc, j'ai mis extrêmement de temps à me réveiller. Et donc, il y a un petit blackout. Et j'ai passé, je pense, des mois et des mois à demander à Jérôme de me raconter ce qui s'est passé entre le moment où j'ai accouché et le moment où je suis allée voir Lou. J'ai pas de repère temporel, je saurais pas dire s'il s'est passé une demi-heure, une heure, trois heures. Je pense qu'il s'est bien passé 4 heures. Et c'est très flou, c'est très perturbant.
T'as pas précisé le poids de naissance de Lou ?
Alors, elle faisait 1,615 kg, ce qui est déjà très bien pour un 30 semaines. Mm-hmm. J'ai beaucoup de 30 semaines, donc les témoignages qui me sont parvenus, qui faisaient 1 kg, pas plus. Donc, je pense qu'elle avait... Ils sont même interrogés sur son âge pour voir si on ne s'était pas trompé dans la date de conception parce qu'ils trouvaient qu'elles étaient, entre guillemets, grosses pour son âge, ce qui était plutôt un avantage et heureusement dans ma situation. Je l'ai vu avec Zélia, je crois que je fais des gros bébés, en fait. Enfin, le papa n'est pas menu. donc, voilà. Donc, a priori, je fais des gros bébés qui profitent bien dans mon ventre et heureusement parce que Lou était déjà grande et assez grosse pour 30 semaines.
Et Jérôme, il l'a accompagnée, Lou. Il avait le droit de la suivre directement.
Tout à fait.
Parce que comment ça se passe, en fait, les premiers instants de vie d'un bébé prématuré ?
Alors, je le sais mieux que quiconque parce que j'ai eu un anesthésiste un peu fou qui s'est pris pour un reporter, mais je le remercie. Parce qu'il a tout filmé, en fait. Et je n'ai découvert cette vidéo que 4 ans plus tard. Heureusement, parce que je pense que dans ma mémoire, Lou était toute mignonne, une belle petite poupée toute rose. En fait, quand j'ai revu le film, elle était bleue, inerte, comme un pantin sans fil. Donc j'étais vraiment un peu choquée de voir cette vidéo, parce que dans mon souvenir, c'était un peu plus poétique que ça.
Comment t'es tombée sur cette vidéo ?
En fait, je cherchais des photos pour mon bouquin. Et donc je vais dans le Mac et je cherche. Donc je remonte très très loin, forcément, 4 ans avant. Je vois, tu sais, quand t'as une vidéo, t'as une espèce de petit cycle. Je me dis, tiens, c'est quoi cette vidéo ? Et là, j'appuie dessus. Je te dis pas le choc. Quand j'ai découvert, il y avait en fait 2 vidéos et on voit tout. Donc, du moment où Lou, on la sort de mon ventre, et donc l'anesthésiste suit en plus. Donc, il y a une salle juste à côté qui est concomitante. Et là, en fait, c'est l'équipe de réanimation qui. Ça va extrêmement vite. On te la présente, hop, elle est emmenée. Et là, on voit même la pédiatre qui la réanime, etc. Toutes les infirmières qui s'affairent autour de Lou. Et Lou qui pleure très, très vite. On voit Jérôme, on voit tout. Jusqu'au moment où, quand elle respire, qu'on a fait les premiers soins, on vient me la représenter dans la couveuse. Donc, tout ça est filmé, c'est incroyable. Donc, voilà, ça m'aide un petit peu à combler certains trous que j'ai eus après la naissance de Lou, quoi.
Et donc, à ce moment-là, vous voilà plongée dans le monde de la prématurité. Comment ça se passe concrètement à ce moment-là ?
Déjà, moi, il faut savoir que je suis dans un état physique pas top, puisque j'ai donc cette infection qui est toujours pas calmée, césarienne d'urgence qui me handicape quand même beaucoup, je suis même pas à côté de mon bébé, puisque moi je suis dans le service maternité, et Lou est dans le service néonat intensif, donc il y a 2 couloirs qui nous séparent. C'est très bizarre, parce qu'il y a 2 sentiments qui se mélangent, c'est heureux de devenir parent, mais il y a tout de suite l'angoisse qui arrive en disant bah, qu'est-ce qui va se passer maintenant ? Tu vois que ton bébé est tout petit, tout frêle, il est équipé de plein de tuyaux, de bandages, enfin, c'est assez impressionnant. Et tu comprends très vite que tu ne vas pas quitter la maternité tout de suite. Tu as l'espoir un peu fou que tu vas partir, voilà, qu'on va passer quelques semaines. Mais non, en fait, tu pars généralement à la date de naissance qui était prévue.
Vous êtes resté combien de semaines ?
La naissance était prévue le 23 juin, on est parti le 17, on est resté 2 mois, donc c'est extrêmement long. Et donc au début, ben, déjà moi, il a fallu le temps que je me remette un peu physiquement. Et puis, ben, tu découvres tout l'aspect médical avec lequel tu vas devoir vivre, les problèmes de ton bébé. Alors là, on essaye de te faire passer, je veux dire, les premiers jours comme une certaine normalité. On va te faire changer ton bébé, on va prendre le bain, etc. Tu es toujours accompagné d'une infirmière. On fait énormément de peau à peau parce que c'est très important. Donc là aussi, on t'aide parce que comme le bébé a plein d'appareils, etc., il faut que les fils suivent, donc on t'aide à mettre sur toi. Donc tout est extrêmement lourd, compliqué. Et puis plus les jours passent, plus tout ça s'allège parce qu'il y a il y a certains équipements qui s'en vont, le bébé grossit, on fait de plus en plus de choses, et puis il y a le moment béni où elle commence à téter enfin, donc voilà, ça, je te passe le fil en accéléré, mais avant que ton bébé commence à téter, puisqu'il n'a pas la force, j'ai tiré mon lait pendant des semaines.
Tu avais décidé, toi, d'allaiter, ou alors ça s'est un peu imposé à toi du fait de la situation ?
En fait, moi, j'avais toujours l'espoir. Enfin, je m'étais dit, oui, je vais essayer d'allaiter. Si ça fonctionne, ça fonctionne pas, c'est pas grave. Mais là, vraiment, comme en plus, Lou, ses petits intestins n'étaient pas censés fonctionner aussitôt, je me suis dit, il faut vraiment que j'y arrive. Ça, c'était un objectif que je m'étais mise. Alors, il faut savoir que ça aussi, c'est une difficulté. Ton corps n'est pas préparé à monter de lait, ne se fait mais pas du tout naturellement. T'as une césarienne d'urgence, t'as pas ton bébé sur toi, c'est un tire-lait, donc c'est pas très motivant pour le corps de produire du lait. Donc chez moi, c'était un peu compliqué, mais vraiment, ma détermination a pris le dessus, donc je suis quand même parvenue. J'avais pas une production de dingue, mais c'était suffisant au début pour Lou. Et on a complété aussi avec des dons de lait maternel. On a fait comme on a pu, jusqu'à attendre que Lou ait la force de téter, et ça c'est arrivé seulement vers la 35e semaine. Voilà. C'était plus facile et plus agréable pour moi, parce que franchement, mon rendez-vous avec mon tire-lait, c'était quand même pas... Tu vois, tu mets ton réveil pour aller rejoindre ton tire-lait, c'est pas top. Ouais. Là, c'est quand même plus agréable d'avoir ton bébé. Alors, c'était... Mais j'ai pas eu une production excessive. La source s'est vite tarie. J'ai pu quand même l'allaiter durant 3 mois, mais je pense que j'aurais pas fait beaucoup plus. Parce que la fatigue aidant, tu produis beaucoup moins. Donc, t'as un conflit entre ton corps et ta tête, quoi. Ta tête veut y arriver, mais ton corps, il te dit non, en fait, je suis pas capable, je suis trop fatiguée, je suis trop esquintée. Je fais ce que je peux, mais là, je peux pas plus, quoi.
Est-ce qu'à un moment donné, on te parle de ces chances de survie, ou alors est-ce qu'on vit vraiment au jour le jour ?
Alors, on vit au jour le jour, parce qu'en fait, la prématurité, c'est ça qui est un peu frustrant. C'est vraiment j'ai envie de dire une loterie. On comprend encore pas tout dans la prématurité, c'est-à-dire qu'il y a des enfants qui sont nés à 30 semaines qui vont traverser tout sans problème, sans opération, sans rien, ce qui était le cas de ma fille, et je remercie le ciel tous les jours. Mm-hmm. Et puis il y a des enfants qui vont naître parfois un peu plus tard, 33, 34 semaines, qui vont avoir des soucis, qui vont devoir subir des opérations. Il y a parfois des choses où on ne sait pas le déterminer. Il paraît aussi que les filles s'en sortent mieux que les garçons, elles sont plus vite matures, je crois que c'est un peu à l'image de la vie, ça m'a fait sourire quand on m'a dit ça. Donc outre tous les soins qu'on peut prodiguer, il y a aussi parfois une loi de la nature contre laquelle on ne sait pas toujours lutter.
Mais vous êtes restée optimiste dès le départ ?
Oui, parce que j'ai toujours le sentiment, je te dis, à partir du moment où je l'ai entendu pleurer la première fois, je ne sais pas, j'ai comme une certitude que ça allait aller. Ça allait être compliqué, mais ça allait aller. Et en plus, j'ai une super pédiatre que j'adore et que je remercie, qui me disait tous les jours... Mais Lou va bien. Elle me le répétait tous les jours parce qu'elle voyait que j'étais un peu inquiète. Elle me dit, mais vous inquiétez pas, elle va bien, elle va bien. Et alors, elle me disait gentiment, vous savez, il faut relativiser, il y avait plus jeune qu'elle. Donc, on a cessé de me rassurer tout le long. Mais c'est vrai que c'est parfois... Ce qui est angoissant, c'est tous les tests médicaux qu'elle subit tout au long de son hospitalisation, qui dit test, dit résultat. Donc, on est toujours suspendu à un résultat. Un jour, c'est les poumons, le lendemain, c'est le cœur, le surlendemain, c'est le cerveau. Après, on fait une prise de sang.
T'es la plus heureuse du monde d'accueillir ton enfant, mais à la fois, tu souhaites pas qu'il naisse si tôt. Tu l'expliques dans ton livre, les gens te félicitaient et te disaient « Ah, c'est une super nouvelle », alors que vous, finalement, vous le viviez pas spécialement comme ça à ce moment-là.
Oui, alors ce sont des maladresses, mais j'en veux pas à toutes ces personnes parce que ça part d'une méconnaissance et c'est pour ça que j'ai voulu en parler. C'est vrai que les gens réalisent pas dans quelle urgence on est, nous félicitent, parfois des petites paroles maladroites en disant c'est bien, tu profiteras de ta fille plus tôt. Non, on se rend bien compte qu'on n'était pas au Club Med et qu'on était plutôt stressés. Même les personnes qui me sont le plus proches n'ont pas toujours réalisé ce qu'on vivait. Et à la lecture du livre, on se dit, mais en fait, on était complètement à côté de la plaque. Désolée, vraiment, vraiment, a posteriori, désolée. Mais je dis, non, ne vous excusez pas. Ça partait d'un bon sentiment. Mais effectivement, c'est un peu en décalage par rapport à ce qu'on vivait.
Comment se met en place la routine des premiers instants en dehors de l'hôpital ?
Ah, c'est la fête, hein. C'est la fête. Le jour où on peut quitter l'hôpital, mais c'est... Et pourtant, on est rentré avec un bébé qui était encore appareillé la nuit. Elle est née le 15 avril, on est sorti le 17 juin, donc elle avait 2 mois. Mais comparé à tout ce qu'on avait vécu, sincèrement, on est rentré des parents super cool pour un premier bébé. On l'a mis tout de suite dans sa chambre, on n'était pas stressé du tout, parce que quand on est passé par la néonate, vous avez votre brevet de parent secouriste, vous êtes blindé. Après, à la maison, tout paraît beaucoup plus facile. Et puis c'était un bonheur de pouvoir reprendre un semblant de vie normale, la vie de famille commençait. Donc c'était vraiment un soulagement. En fait, la parenthèse était très brève, on se dit « Ah, ça va, on est sorti du Chirec, super !» Mais en fait, on y retourne assez vite, parce qu'il y a un très grand suivi. Vous devez faire un test du sommeil, justement, pour voir si on peut enlever l'appareillage ou pas. Ça se passe en une nuit, voire deux. Il y a beaucoup de suivi à tout niveau, notamment un suivi kiné, sa pédiatre qui revoit l'enfant. Il y a des suivis psychologiques, que ce soit pour les parents ou pour l'enfant. Pour l'enfant, je n'ai pas très bien compris, mais enfin bon, soit. Nous sommes allés à tous les rendez-vous médicaux qu'on nous a fixés, pour la vue, pour l'ouïe, j'en passe et des meilleurs. Donc, vous retournez régulièrement à l'hôpital avec votre bébé. Je veux dire que jusqu'à 2 ans, il faut compter quand même pas mal de rendez-vous médicaux. Surtout que moi, j'avais signé un protocole où je m'engageais à faire ce suivi avec des données anonymes pour faire avancer les choses, tout simplement, parce qu'on en a besoin. Donc, je me suis dit, si ça aide d'autres parents, et si ça avait mal tourné, j'aurais été contente d'avoir eu suivi. Alors, pour le coup, à chaque rendez-vous, on me disait, tout va bien, tant mieux. Si quelque chose tournait pas bien, je me dis, voilà, ça aurait été bien d'avoir ce suivi-là. Mais à la fin, c'est vrai que c'est un peu lourd, hein, les rendez-vous médicaux, surtout que quand vous retournez là-bas, il y a un peu tout qui remonte, hein, tous les souvenirs, etc. Donc, c'est pas évident. Mais jusqu'à 2 ans, ben, on s'y est plié. Elle a eu droit aussi à un petit vaccin qui coûte excessivement cher, mais qui est remboursé dans le cas des prémas contre les bronchiolites. Parce que comme ils ont une fragilité pulmonaire, c'est vraiment quelque chose qui a beaucoup aidé Lou, parce qu'elle a pas fait elle a jamais terminé à l'hôpital pour une bronchiolite, quoi. Parce qu'elle a une petite fragilité pulmonaire, mais ça l'a vraiment aidée. Donc il y a vraiment énormément de choses qui sont très importantes. Mais je trouve que c'est une championne, parce que je vois dans sa classe, elle est rarement malade, en fait. Là où ses petits copains sont souvent absents, elle... C'est une warrior, hein, vraiment. La seule chose qu'il y a eu chez Lou, c'est un petit... J'appelle ça une petite coquetterie alimentaire, mais il paraît que d'autres enfants l'ont sans pour autant être prématurés. Mais Lou, elle a eu beaucoup de difficultés à manger des morceaux très tard, quoi. Donc j'ai dû lui mixer tout comme un bébé jusqu'à... J'aurais même plus dire jusque quand, mais c'est des enfants généralement qui n'aiment pas poigner dans du sable ou... voilà, ils ont un problème avec des textures, en fait. C'était le cas de Lou au niveau pour manger. Donc j'ai été voir chez une logopède s'il avait peut-être des problèmes pour déglutir. Je me disais peut-être les sondes gastriques, ce genre de choses. Je crois, peut-être qu'inconsciemment c'est ça, mais ça c'est une explication qui est non scientifique. Je crois que dans une partie de son cerveau a gardé ce souvenir de la sonde gastrique et que peut-être manger n'était pas un plaisir pour elle parce que quand on est gavé, je vois pas où est le plaisir. Donc moi, je crois que c'est ça l'explication. Mais c'est que son premier contact avec la nourriture, c'est d'être gavé. Bah, c'est quand même pas très agréable. Donc pour elle, elle n'a jamais associé manger, plaisir. Et donc c'est ce que j'ai essayé de faire pendant des années. Là, on voit seulement plus ou moins le bout du tunnel. J'ai été voir des pédiatres, une logopède. Ils m'ont dit, mais enfin, votre fille n'a aucun problème pour déglutir. Elle mange des knick-knack. C'est quand même le biscuit le plus difficile du monde à manger. Elle me dit, elle mangera quand elle voudra. Donc c'est uniquement dans sa tête. Et progressivement, j'ai jamais forcé, je me suis jamais fâchée, mais c'est venu progressivement. Un jour, elle a mangé des pâtes, un jour, elle a mangé des frites, un jour, elle a mangé un bonbon, un jour, elle a mangé du Nutella. Alors pour nous, c'est des petits miracles aux yeux des autres parents. On se dit, enfin oui, c'est normal. Non, pour un bébé, elle aimait rien de ce que les enfants aimaient. Hein. Toutes les sucreries, du Nutella, machin, tout ça. Lou ne mangeait rien, pas de pâtes, pas de frites. Rien du tout.
Est-ce que vous lui en avez déjà parlé de ses débuts de vie à Lou ?
Oui, mais ça s'est fait de manière assez naturelle. J'avais demandé à ma pédiatre, est-ce que je dois lui en parler ? Est-ce qu'on doit retourner au Chirec ? Elle m'a dit, bah oui, il faut lui en parler. Mais je trouvais pas quand, quoi, comment. Et en fait, c'est Lou qui un jour m'a demandé, maman, j'aimerais bien voir des photos de moi dans ton ventre. Aïe ! Comment te dire, ma chérie ? Je n'en ai pas beaucoup. Donc je lui ai dit, écoute, j'en ai pas beaucoup, mais par contre, j'ai ton album de naissance. Et donc là, on a pris l'album de naissance, et donc on a regardé les photos avec elle, et je lui ai expliqué pourquoi elle a été appareillée, donc en termes simples évidemment, mais elle a très bien compris qu'elle a eu un début de vie un petit peu mouvementé. J'ai présenté toute l'équipe médicale qui s'en est occupée, et franchement, j'ai vu qu'il y a eu vraiment un déclic dans ses yeux, c'était super mignon. Je ne sais pas expliquer, ça a changé beaucoup de choses.
Malgré tout ce que vous avez traversé avec Lou, est-ce que c'était évident pour vous d'avoir au moins 2 enfants, ou comment vous vous appréhendez un peu cette nouvelle étape?
Oui, alors pour nous, c'était une évidence, parce qu'on avait toujours voulu 2 enfants. Et vu mon optimisme à tout craint, je dis allons-y, parce que maintenant, on sait dans quoi on s'engage. Je fais partie des grossesses à risque, donc maintenant, on peut prévoir beaucoup de choses et mettre en place beaucoup de choses. Déjà, changer de médecin et de 1, être suivi de beaucoup plus près de 2, beaucoup plus régulièrement. Et puis surtout, je me dis au premier signal, j'arrête tout, quoi. J'attends même pas un avis médical, je m'arrête.
Et donc cette seconde grossesse, on t'a imposé aussi de lever le pied à partir de 5 mois?
Oui, 25 semaines, ça fait plus ou moins 5 mois et demi, quelque chose comme ça. Et donc là, j'ai un premier signal d'alerte où je commence à avoir des contractions et me voilà de nouveau au Chirec, ma deuxième maison, où là, on m'injecte le produit qu'on m'avait injecté à l'époque avec Lou. Et je prie le ciel pour que ça fonctionne, parce que quand on est passé déjà par là, on a conscience de tout, on sait ce qui nous attend, on sait dans quel jeu on joue, parce que 25 semaines, je me dis, les questions de viabilité de mon enfant, là, il n'est plus besoin qu'on me le dise, je connais tout, je peux faire une thèse dessus. Donc, je flippe, mais comme jamais, je me dis, 25 semaines, c'est trop tôt, là, c'est vraiment beaucoup trop tôt, j'aurais pas la même chance qu'avec Lou. C'est la première fois que j'ai une peur irrépressible. Vraiment, mon cerveau s'affole complètement, je suis en train de passer le film en boucle dans ma tête en me disant, mais si j'accouche maintenant, c'est la catastrophe. Je suis en panique, mais totale. Quand ça m'est arrivé la première fois, ben, ça me tombe dessus, tu mets un pied devant l'autre, tu connais pas tellement les tenants, les aboutissants, tu sais pas combien de temps tu vas rester, tu sais pas ce qui t'attend, tu découvres un peu tout au jour le jour, donc tu n'as pas cette perspective que tu as déjà quand tu connais par où t'es passé, et là, c'est terrible, parce que tu n'as pas du tout envie de repasser par les néonates, quoi. Je sais pas comment j'aurais vécu ça, franchement, sincèrement.
Comment ça se passe, ces 3 mois suspendus à un fil, encore une fois?
Heureusement, le médicament fonctionne, je suis vraiment très bien suivie à ce moment-là, et puis surtout, je me dis que jamais je vais retourner dans ce service. Alors gentiment, on me prépare psychologiquement, on me dit, vous savez, vous repasserez certainement par nos services, mais le plus tard possible. Et moi, dans ma tête, je me dis, il est hors de question que ça arrive une deuxième fois. Donc j'ai une détermination à ce moment-là. Je me dis dans mon esprit, non, je vais tout faire pour que ça se passe bien. Je suis la seule à y croire à ce moment-là, en fait. Je me rends compte que poliment, même ma gynécologue me dit, mais si, ça va aller. Même Jérôme, j'apprendrai qu'il n'y croyait pas non plus. En fait, personne n'y croyait, sauf moi. Mm-hmm. Et moi, j'y croyais pour 10. Donc, ça a fonctionné parce que je me suis vraiment cramponnée jusqu'au bout, mais c'était vraiment difficile physiquement. Parce que je suis quand même allée retourner 3 fois. Hein. Zélia, cette petite coquine, à un moment donné, se retourne et se met en siège, ce qui me reprovoque des contractions carabinées. Je me souviens exactement du moment où elle s'est retournée parce que j'ai vraiment eu très mal à ce moment-là. On découvre, pendant que je suis à l'hôpital, que j'ai fait un virage CMV, donc le cytomégalovirus. Et qu'on ne sait rien faire, puisqu'à 6 mois de grossesse, de toute façon, tu ne sais rien faire. Et donc, il y a juste qu'à croiser les doigts pour que le bébé ne l'ait pas contracté, ce qui était le cas. Mais tu dois vivre avec ça aussi. Donc, on fait des échographies régulières pour vérifier que le développement du bébé est normal. Parce que dans ces cas-là, si ça arrive très tôt dans la grossesse, on te conseille carrément d'avorter. Parce que ton bébé peut avoir de lourdes séquelles et des handicaps. Et puis, si c'est plus tard dans la grossesse, le seul risque qui reste encore, c'est un risque de surdité. Et ça, de toute façon, on ne peut le vérifier qu'à la naissance. Donc, tu ne sais rien faire, mais tu dois vivre avec.
Comment on gère tout ça? Comment on gère ce raz-de-marée là qui nous tombe dessus?
On ne gère pas, on se le prend en pleine tronche. On ne gère pas du tout. Moi, j'ai passé mon temps à rire, à pleurer, à passer par tous les états d'âme possibles. Non, on fait comme on peut, en fait. À 40 balais, je me connais excessivement bien, donc je savais là où j'aurais du mal, ce qui me ferait du bien, comment je pourrais avancer et ce qui me permettrait d'aller mieux. Et je ne me suis pas trompée. Donc d'en parler avec... j'en parlais avec des infirmières, ça me faisait du bien. Je savais que si j'avais le bonheur d'avoir une grossesse à terme, ça irait mieux. Oui, alors le premier objectif, donc quand j'arrive à l'hôpital à 25 semaines, on me dit, allez, il faut au moins tenir jusqu'à la 28e semaine. Et je me dis en moi-même, mais c'est une blague. Mon objectif, c'est quand même, les gars, c'est à terme, hein, c'est 37, et on me dit de tenir jusqu'à 28. Donc quand j'arrive à 28, je me dis, bon, ben voilà. Il se passe un truc très drôle, c'est qu'à 30 semaines... Comme si le corps avait une mémoire, j'ai de nouveau des contractions. Je me dis, ah non, l'histoire ne va pas se répéter, quoi. Comme s'il y a 30 semaines, et je me dis, ça va être la même histoire qu'avec Lou. Heureusement, on parvient de nouveau à calmer mon corps. Et là, on me dit, allez, il faut viser les 32 semaines. Cet objectif me paraît toujours très dérisoire par rapport au mien. J'ai un objectif bien précis, c'est d'accoucher à terme, et il n'y a personne qui me fera penser le contraire. Donc vraiment, j'essaye de mettre toutes les chances de mon côté à ce moment-là, quoi. Et donc finalement, de semaine en semaine, j'arrive à 35 semaines, à 36, je veux dire, c'est génial, 37, alors là, on est sauvés des eaux, alléluia, les poumons sont à maturité, donc, mais je me dis, tant qu'à faire, allons jusqu'au bout. Maintenant, on va pas s'arrêter en si bon chemin. Mais c'est vrai que ça devient dur, parce que je dors quasi plus, donc ça devient très compliqué.
Les contractions continuent, en fait.
Ah oui, jusqu'au bout, et plus on avance, plus elles sont fortes, parce que forcément, le bébé prend de plus en plus de place, je suis de plus en plus fatiguée, je dors quasi plus, je dois dormir assise, j'ai des remontées gastriques, c'est l'horreur, hein, c'est l'horreur.
C'est préparatif avant l'accouchement, que pour le coup, bah, là, tu pouvais anticiper. Comment vous vous sentiez à ce moment-là?
Moi, j'étais très heureuse pour 2 choses. J'ai fait un sacré pied de nez au destin parce que j'ai fait 2-1 mon shooting grossesse.
Oui,
que je n'avais pas pu faire. Voilà, en long, en large, en travers. Et j'ai pu, pour une fois, préparer ma valise pour aller à la clinique plutôt que d'arriver avec mon sac à main et mon manteau. C'est un peu limite. Là, j'ai pu une main pour ça dans mes petites affaires, les affaires de Zélia. Donc, c'était un moment béni parce qu'en fait, Ça paraît bête, mais je suis passée par toutes les étapes par lesquelles on est censé toutes passer, qui est un moment de joie, tu prépares ta valise pour aller à l'hôpital, tout se passe bien, t'es pas dans le stress, là, en plus c'est une césarienne programmée, donc j'ai le temps de mettre Lou chez ma belle-mère, donc tout est cool en fait. Et je me dis, oh, j'ai vraiment découvert les joies de la maternité, quoi. On arrive, on s'installe, j'ai ma petite boîte rose qui est préparée, je fais mes petites affaires, on va calmement dans la salle d'opération. Je discute avec le gynécologue, avec l'anesthésiste, qui n'était pas celui que j'avais rencontré, mais c'est pas grave, il était très sympa. On me demande de choisir ma petite musique, enfin tout est tellement cool, quoi. Et là on y va, et en deux secondes, Elia est sortie, et je vois ce gros bébé qu'on met sur moi, mais c'est... J'en ai des frissons, rien d'y repenser, quoi. Je veux dire, alors, j'ai jamais pu avoir ma fille sur moi quand elle est née, Lou, donc ça m'a paru incroyable.
Et donc, contre toute attente, tu tiens jusqu'aux 38 semaines.
40.
Ah oui.
Je suis très fière.
Ah oui. Donc,
oui, j'ai poussé le vice d'aller jusqu'à 40 semaines. Je sentais ma peau, tu sais, commencer à chatouiller, genre à la limite, je vais craquer. Je pense que si j'avais attendu un jour de plus, j'ai même. Mais là, c'est parce que j'étais vraiment fatiguée, un petit peu au bout du rouleau. J'ai avancé la césarienne de 2 jours. Ma gynécologue qui dit oui, mais tu sais, c'est toujours bien d'aller jusqu'au bout. Je dis attends, ça va pas m'ennuyer pour 2 jours. Surtout ouais. Qu'elle a sous-estimé le poids de mon bébé. Elle estimait que Zélia faisait 3,2 kg, elle faisait 3,750 kg.
Cette seconde naissance et même cette seconde grossesse qui a été jusqu'au bout t'a permis de faire le deuil de cette grossesse arrachée.
En tout cas, ça m'a aidée. Je le savais intimement, même si ça n'a pas conditionné l'arrivée d'un deuxième enfant, que ça panserait mes plaies, ce qui a été le cas, parce que je voulais connaître ça au moins une fois dans ma vie. Ça vraiment, c'était mon rêve ultime et je ne m'étais pas trompée parce que... C'est tellement des sentiments mais incroyables que je remercie le ciel tous les jours d'avoir pu arriver à terme parce que d'avoir vécu tout ça, moi le 8 décembre c'est une des plus belles journées de ma vie, je pourrais la revivre indéfiniment, donc franchement oui c'est indescriptible, donc je suis vraiment contente d'être arrivée jusque là. Ça a permis effectivement de rendre les choses moins douloureuses et c'est vraiment pour ça et j'insiste et je suis contente d'avoir sorti ce livre parce que si ça peut aider quelqu'un à un moment donné à avoir ce déclic de se dire, ok, maintenant, voilà, c'est un moment de sa vie, je vais remettre un enfant au monde, voilà, vous reprendrez votre vie après, c'est pas grave, la Terre va pas s'arrêter de tourner. Moi, c'était pas grave que j'ai quand même arrêté mon boulot, pour le coup, 5 mois. C'est pas grave, je suis revenue après. C'est quelque chose qui n'entrait même pas en ligne de compte, parce que c'était mon bébé avant tout. Mais c'est plus facile de s'arrêter avant que les contractions arrivent que d'essayer d'arrêter les contractions une fois qu'elles sont là, quoi. On passe notre temps à dire, oui, enfin, une grossesse, c'est pas une maladie, certes. Et il y a des femmes qui ont la chance d'avoir des grossesses de rêve, qui font du sport, qui travaillent jusqu'au bout, qui ont fait un tennis la veille d'accoucher. Et tant mieux si elles peuvent le faire et elles doivent s'écouter. Mais pour toutes les autres qui ont plus de difficultés, on doit pouvoir entendre aussi que ces femmes ont besoin de lever le pied. Elles ont... Et puis de toute façon, c'est même pas moi qui le dis, c'est toutes les personnes, tous les professionnels de santé que j'ai été interviewée, ils sont tous d'accord, mais vraiment tous, pour dire les femmes, on doit les arrêter plus tôt. Et alors il y en a un qui a mis, ou une, qui a mis tout le monde d'accord, c'est la pandémie. Parce que quand on s'est tous arrêtés de manière involontaire pendant 2 mois, le taux de prématurité a chuté de 17%. C'est énorme. Les femmes ont fait du télétravail, elles n'ont plus pris leur voiture, elles n'ont plus été stressées dans les emboutes, elles n'ont plus été stressées tout court, et le taux de prématurité a chuté. Donc, à un moment donné, c'est indéniable.
Le trauma est derrière vous.
Alors, il restera toujours dans un coin de ma tête parce que ça ne répare pas le fait que, pour moi, on m'a quand même enlevé 2 mois avec Lou dans mon ventre, que j'aurais voulu connaître cette naissance un peu... voilà, avec Lou sur moi, je ne le récupérerai jamais. Donc, il y a quand même une petite part de trauma qui restera là pour l'évolution de Lou aussi, parce qu'en fait, il y a une chose sur laquelle on n'a pas encore de vue, c'est que les prémas, parfois, ont des difficultés d'apprentissage, genre dyscalculie, dyspraxie, tout ce que tu veux. Je ne connais plus les termes par cœur. Donc, quand elle sera en primaire, je veillerai à voir si voilà, il y a un problème de lecture, de maths ou que sais-je. Mais ça arrive aussi à des enfants qui ne sont pas prématurés. Donc, ça reste quand même toujours un petit peu dans un coin de ma tête. Si ça reste encore quelque chose de douloureux d'en parler vraiment avec des parents qui ont traversé ça, je trouve que ça aide beaucoup de partager son expérience. Ça, c'est vraiment le conseil que je donnerais. Pour le reste, je crois qu'à un moment donné, si votre bébé va bien, laissez ça derrière vous. Il y a encore tellement de belles choses à vivre derrière. Voilà, ça vous a rendu plus fort, vous avez fait des petits warriors, donc après, il faut juste en profiter, quoi.
Merci beaucoup Caroline, et merci aussi pour ton livre, qui j'espère et je pense vraiment est une source d'espoir et de réconfort pour les parents qui traversent ça. Donc, merci beaucoup.
Merci à toi.
Merci beaucoup pour votre écoute. Alors que vous soyez coparent, tata, grand-mère, papy ou proche d'un futur parent, n'hésitez pas à partager, liker les épisodes et à en parler autour de vous pour soutenir ce podcast. Vous pouvez aussi mettre un cœur ou 5 étoiles sur l'appli d'écoute de votre choix. Parce qu'on ne naît pas parent mais qu'on le devient, parce qu'on ne savait pas qu'il fallait un village entier pour élever un enfant, parce qu'on s'est senti trop souvent dépourvu face aux pleurs de bébé, parce qu'on ne savait pas que pleurer sans raison était tout à fait normal après un tel chamboulement, mais aussi parce qu'on ne savait pas qu'il était possible de générer autant d'amour pour de si petits êtres, bref, parce qu'il y a mille et une raisons d'écouter Rita, le podcast belge qui compte bien vous aider à mieux vivre ce grand tourbillon de la vie.